Merci. Je vais dire comme Philippe Astier, je vais essayer de dire d'où je parle. Comme vous le disiez tout à l'heure, je ne parle pas du point de vue du chercheur. Vous le comprendrez assez aisément. J'ai beaucoup apprécié la conférence de Philippe Astier parce qu'elle nous met face à tout un tas de perspectives, de débats qu'il y a à l'intérieur des IUFM, de choses que l'on n'a pas résolues, il faut être honnête, depuis 1991, mais pour lesquelles nous sommes en chemin. Je ne parle pas non plus du point de vue ici de la CDIUFM. Il n'y a pas un point de vue de la CDIUFM. Il y a mon collègue Régis Bernard, directeur de Lyon, qui est là et je suis sous contrôle. Mais je parle sous son contrôle, comme on dit aujourd'hui. Bien entendu, chaque histoire d'IUFM, chaque culture d'IUFM et chaque identité d'IUFM a créé, notamment dans le cadre de la formation de formateurs, des pratiques. Des habitudes, à coller un certain nombre d'héritages. Et je vais parler plutôt du point de vue du directeur de l'IUFM, sachant que j'ai été pendant cette année directeur adjoint chargé de la formation continue et de la formation de formateurs. Les deux missions avaient été confiées à à la même direction adjointe. Alors je pourrais dire que... Si je prends une sorte de point de vue un peu historique, il y a eu une formation de formateurs, on pourrait dire foisonnante dans les IUFM, à des titres divers. Et chacun se retrouvera peut-être, puisqu'il y a un certain nombre d'IUFM autour de la table, avec des pratiques d'établissement. Et il me semble que dès l'origine, la formation de formateurs a été considérée comme essentielle, peut-être parce qu'elle permettait d'affronter des situations, des changements en cours. Le grand changement des années 90-91 dans la mise en place des IUFM, je pense aux IUFM expérimentaux, hein, qui ont eu une courte durée d'expérimentation d'un an et qui n'ont pas pu faire bénéficier les autres IUFM de l'expérimentation. Mais ça, c'est bien dans nos principes de fonctionnement français. Les premières années ont permis, notamment par des pratiques de séminaires, hein, c'était les séminaires intra ou internes aux IUFM, ont cherché à faire coller et ajouter, additionner, peut-être bonifier, des pratiques qui étaient celles des écoles normales, qui avaient une expérience dans la formation de formateurs, et des CPR dans un même creuset. Je ne parlerai pas des ENNA, qui étaient peu nombreuses, mais enfin, ça a servi aussi. Et la pratique de ces séminaires avait principalement pour objectif de mobiliser des équipes enseignantes qui devaient résoudre des problèmes pédagogiques tout à fait nouveaux. Les directions des IUFM se sont emparées de ces questions, souvent en nommant des chargés de mission sur les questions de formation de formateurs. Et pour l'expérience clermontoise, c'était assez typique, c'est que la formation de formateurs était très liée à la recherche, avec des chargés de mission... formation de formateurs et développement. Et dans le terme développement, on entendait recherche, c'est-à-dire que l'objectif était souvent affiché ainsi, de susciter auprès des enseignants, de non-enseignants-chercheurs, la possibilité de s'inscrire en thèse, de rentrer dans une démarche de recherche, j'allais dire, quelle que soit la recherche, c'est-à-dire que les IUFM ont parfois soutenu des recherches qui ont mené des enseignants à soutenir une thèse, qui les faisait devenir parfois docteurs, souvent docteurs, puis maîtres de conférences dans une autre institution, une autre instance qui n'avait rien à voir avec la formation d'enseignants. Mais on a soutenu des gens qui ont fait des recherches en physique nucléaire et qui sont partis dans un laboratoire de physique nucléaire. Bon. Donc ça, c'est le début et ce sont les démarrages, c'est la perception que j'en ai. Et puis progressivement, la formation de formateurs, c'est structuré à l'intérieur de nos maisons, et particulièrement, mais là l'exemple de Clermont est un exemple un peu atypique, notamment dans la région sud-est de la France, c'est que à partir de 1998, la disparition des MAFPEN a entraîné l'apport d'une culture particulière, qui était celle de la culture du second degré, qui s'était créée aux alentours des années 80, 83, la création des MAFPEN, et qui avait introduit la formation continue des enseignants et lié à la formation continue des enseignants une formation de formateurs qui permettait d'assurer cette formation continue des enseignants du second degré. Et l'héritage de la MAFPEN, en tout cas dans la question, et vous voyez qu'on est bien un peu sur les identités et les cultures, l'héritage de la MAFPEN en ce qui concerne l'IUFM d'Auvergne a été très fort parce qu'il a permis de bâtir, et Gérard Bayon, qui nous fait l'amitié de venir ce matin, le sait très bien, il a permis de structurer une typologie de formation de formateurs qui permettait d'avoir un cadre, une structure institutionnelle pour relier la formation de formateurs à des actions très précises. En dehors des établissements, il y a des lieux, d'autres lieux de mutualisation. Il y en a deux qui, à mon sens, jouent un rôle important. C'est que dès 90, le ministère a favorisé la création ou le maintien de pôles comme dans notre région le pôle sud-est, hein, vous prenez les numéros téléphoniques, la numérotation téléphonique, nous c'est le 04, le pôle sud-est des IUFM qui a été un lieu de mutualisation dès le départ avec un certain nombre de séminaires inter-IUFM qui au départ a travaillé sur des questions de gouvernance, on le déplorait la dernière fois à Valence en disant on a abandonné les questions de gouvernance pour rentrer dans des questions qui étaient plutôt des questions de, alors on n'employait peut-être pas le terme de didactique professionnelle, mais des questions qui étaient des questions vives pour des formateurs face à des commandes, qui pouvaient être des commandes de l'institution, qui devaient prendre en compte de nouvelles façons de d'évaluer les stagiaires ou de les former à de nouvelles questions. Et donc, il y a eu un développement, parfois même certains directeurs disent un foisonnement, d'actions de formation dans le cadre de cette mutualisation. Et je crois que ça a joué un rôle considérable dans l'acquisition de compétences communes entre formateurs par cette mutualisation. Puis la deuxième chose, alors en France, le pôle Nord-Est a joué à peu près le même rôle j'allais dire, parfois le pôle Sud-Est, je vois les collègues du pôle Nord-Est, le pôle Nord-Est, parfois, il a dépassé même le pôle Sud-Est, notamment ces dernières années, sur sa capacité de réaction, de réagir face au changement que l'on connaît actuellement. Je passe en revue, sans être complètement exhaustif, les domaines qui ont été étudiés. Je vous parliez de l'entretien d'explicitation. Ça a été un des premiers thèmes du pôle Sud-Est à parler des entretiens d'explicitation. On ne sait combien d'écrits ont été faits sur les écrits professionnels, sur le mémoire professionnel, sur l'analyse de pratique, quand tout d'un coup elle a fait irruption dans le paysage aux alentours de 97-98, sur l'évaluation, sur le conseil pédagogique, je me retourne vers Luc Ria, sur la mise en œuvre du C2I2E, les formations disciplinaires préparant à tel et tel concours. On a eu ici un certain nombre de choses qui, de thèmes de formation de formateurs qui ont été, à mon avis, assez fructueux pour soutenir des équipes de formateurs qui étaient, qui se sentaient parfois isolées. Il y a aussi, dans le cadre de la formation de formateurs, les liens avec des organismes. Et puisqu'on est à l'INRP, vous le savez, l'INRP a joué un rôle peut-être en lien avec ce qui existait préalablement dans le cadre des écoles normales, avec le jeu des décharges de services pour insertion de formateurs dans des activités de recherche conduites par l'INRP. Et ça a joué un rôle non négligeable, notamment hein, parce que la collaboration hein, sur un terrain qui était peut-être un terrain commun, de temps en temps il fallait bien qu'il y ait des problèmes de bornage hein, entre les IUFM et l'INRP, mais globalement les choses ont bien fonctionné et c'était une possibilité supplémentaire. D'autres organismes ont joué un rôle important. Il a été question souvent des mathématiques, peut-être parce que les mathématiques se sont intéressées à ces questions très tôt, mais les IREM ont joué un rôle déterminant puisqu'ils ont été à l'origine souvent des MAFPEN, hein, dans un travail précurseur. On se souvient que souvent les chefs de MAFPEN ont été parfois les premiers directeurs d'IUFM, c'était le cas pour un certain nombre de lieux, ou ensuite directeurs d'IUFM, c'était le cas à Lyon, il me semble, avant d'aller vers d'autres cieux. Donc, du coup, on voit bien qu'il y a un lien, et je pense que dans la plupart des IUFM, les nouveaux formateurs en mathématiques, les nouveaux formateurs en IUFM en mathématiques ont été pris en charge par ces organisations de la Copirelem qui essayent de faire acquérir dans un temps qui est parfois assez limité des compétences à des nouveaux formateurs dans un nouveau métier qui est plus celui de l'enseignement, qui est plus celui de l'enseignant, mais celui du formateur. Alors les autres partenaires sont très nombreux. Bien entendu, l'institution a beaucoup joué. L'institution a beaucoup joué, notamment sur le plan national de pilotage, dont on ne sait plus aujourd'hui où il est et qu'est-ce qu'il est, mais vous avez connu cette institution du PNF, puis du PNP. Et les formateurs des IUFM étaient en général conviés par la voix de leur directeur à participer à ce plan national de pilotage. Des associations de spécialistes, parce que les didactiques spécifiques des disciplines incitaient en permanence les formateurs des IUFM à s'impliquer dans des projets des associations de spécialistes. Je passe de l'APHG au SVT ou à l'Union des physiciens, qui pensaient eux aussi avoir leur mot à dire dans la formation et dans la formation de formateurs. Parfois même les recteurs faisaient des propositions d'ouverture à leur propre plan interne, et notamment les plans internes de formation des cadres de leur académie, à des formateurs de l'IUFM. Je prends des cas tout à fait particuliers auxquels nous avons été confrontés, par exemple l'évaluation des équipes enseignantes et des établissements. Le recteur de l'Académie de Clermont invitant les formateurs de l'IUFM à ce type de manifestation avec Jean-Marc Monteil sur l'évaluation des équipes enseignantes. C'était bien entendu plutôt tourné vers les inspecteurs et l'inspection et les chefs d'établissement, mais finalement c'était utile à la formation des formateurs, l'orientation des élèves, etc. Bref, les propositions de formation pour les formateurs étaient importantes. Ceux qui ont eu à gérer ces plans savent très bien que généralement on n'arrivait pas à exécuter l'ensemble des plans parce que, quand j'ai dit foisonnante, oui, les plans étaient foisonnants, les propositions étaient foisonnantes et le temps de travail des formateurs ne permettait pas parfois de tout exécuter. La deuxième question sur laquelle on peut légitimement mettre des points d'interrogation, c'est qu'est-ce qu'un formateur ? C'est tout un débat parce qu'on en parle savamment aujourd'hui et on dit oui, un formateur, tout le monde sait ce que c'est qu'un formateur. Je me suis rendu compte que, ben oui, dans le langage que l'on a maintenant avec nos collègues de l'université, employer le terme formateur n'est pas un terme utilisé par l'université. On parle des enseignants, des personnels enseignants, bien sûr des enseignants-chercheurs, après toutes les catégories, du Prague jusqu'aux professeurs des universités, mais il s'agit d'enseignants. Et il semble bien qu'on ait perçu depuis longtemps au sein des IUFM, peut-être en s'appuyant sur le passé hein, et sur les héritages, que les tâches et les compétences qu'il fallait avoir pour accomplir ces tâches n'étaient pas du même ordre dans les UFR qu'à l'IUFM. Et donc là, parfois, on sent qu'on n'est pas tout à fait compris en ce qui concerne cette différence hein, de dénomination. Alors, deux questions sont sans cesse posées ces dernières années. Celle de la définition du formateur. Qu'est-ce qu'un formateur ? Celle de la définition du référentiel de compétences des formateurs, d'un référentiel. avec tous les handicaps dont vous parliez tout à l'heure, est-ce qu'on découpe, est-ce qu'on fait un découpage de toutes ces compétences et, alors qu'elles sont elles fonctionnent toutes ensemble quand le formateur est en action. Oui, c'est bien entendu une difficulté. Alors, la diversité des statuts des personnels titulaires en poste à l'UFM n'est pas le problème essentiel pour définir au moins le public formateur. Je pense que l'existence dans le même lieu d'un instituteur, parce qu'il en existe encore, de professeurs des écoles, de professeurs du second degré, jusqu'aux professeurs d'université, a été au contraire un atout considérable de nos maisons jusqu'à présent. Et je m'interroge sur la façon dont l'État se pose des questions sur le devenir des enseignants du premier degré ou du second degré dans les IUFM, c'est-à-dire dans l'enseignement supérieur, ils y étaient déjà, dans le cadre de universitaire. Non, c'est une richesse qu'on devrait conserver. Et bien entendu, c'est à l'ensemble des formateurs, du professeur des écoles au professeur d'université, que doit s'adresser la formation de formateurs, une formation de formateurs. Alors, on avait bien compris que ceux qui étaient en poste, c'était bien à eux que s'adressait la formation. En revanche, plus on s'éloigne du centre, dans ces cercles concentriques, plus c'est plus compliqué. Et on le sait bien que les PEMF, ils se considèrent bien, à condition qu'on leur ait dit, à condition qu'on les ait confortés dans cette position, ils se considèrent bien comme des formateurs associés de l'IUFM, puisqu'ils nous doivent un service statutaire. Et vous le savez bien, il y a un danger qui existe sur ce sujet, hein, avec la circulaire sur leurs obligations de service, la récente circulaire sur leurs obligations de service. Mais plus on s'éloigne du lieu IUFM, alors qu'on participe à la formation des stagiaires, voire des étudiants en première année, mais le système va disparaître, mais c'est important de savoir ça pour la suite, moins le conseiller pédagogique isolé dans son établissement scolaire ne se considère comme un formateur. Il peut se considérer comme un collègue. Alors après, je ne sais pas si c'est du compagnonnage ou pas du compagnonnage. Je ne sais pas s'il se sent solidaire d'un plan de formation de l'IUFM. Il se sent solidaire d'un discours. Et donc, on s'est intéressé aussi à la formation de ces conseillers pédagogiques, et notamment dans le cadre de l'analyse de pratique ou du conseil pédagogique. Un certain nombre de formations ont été mises en œuvre pour essayer d'harmoniser, sinon des points de vue, du moins des conceptions ou des discours autour de la formation par alternance. Alors, on a vu combien il était difficile de définir les compétences d'un enseignant, sorte de référentiel métier commun à tous les enseignants, et la définition d'un référentiel de compétences du formateur peut-être mériterait d'être à l'ordre du jour, tout au moins discuté, avec la ferme conviction qu'il faudra dire que enseigner est un autre métier que former. Et il y a souvent ce glissement entre former et enseigner. Le formateur, il a tendance à enseigner parfois plus qu'à former. Et peut-être que nos modalités de formation d'aujourd'hui, notamment le positionnement du concours, et tout à l'heure Serge Calabre parlait de ce qu'on saurait sur les concours qui piloteraient la formation, nous laissent à penser que de temps en temps, dans première année en tout cas, dans la préparation de tous nos concours, on fait plus de l'enseignement que de la formation, même si on s'en défend en disant « si, c'est aussi de la formation professionnelle en première année ». Certains disent, mon œil, c'est pas de la formation professionnelle, c'est plutôt
des cours
pour être sûr d'avoir le concours, enfin, pour se mettre le plus de chances possible de son côté. Alors, la question s'est posée très souvent. Est-ce que un bon enseignant est obligatoirement un bon formateur? Il me semble que la réponse a été souvent donnée. Quelqu'un peut être un bon enseignant et pas forcément un bon formateur d'adultes. un bon enseignant dans un établissement scolaire et pas forcément un bon formateur d'adultes. Un certain nombre d'échanges avec nos collègues IAIPR nous l'ont montré, c'est-à-dire que la détection d'un conseiller pédagogique ne se fait pas sur ses compétences à être un bon formateur, elle se fait sur ses compétences à être un bon enseignant, ce qui est déjà pas mal. Mais on a connu, les uns et les autres, des cas dramatiques d'opposition entre le stagiaire et le conseiller pédagogique. C'était parfois lié au stagiaire, c'était parfois lié au conseiller pédagogique, c'était parfois lié aux deux, mais parce qu'on n'avait pas travaillé la question, parce qu'on sait très bien comment sont nommés les conseillers pédagogiques et comment on a du mal à assumer la formation des conseillers pédagogiques. Je regarde bien la pendule. L'appellation de formateur, donc, prend tout son sens lorsqu'on la réfère à la mission de formation professionnelle et d'une formation professionnelle d'adulte. Peut-être parce que les gestes professionnels du formateur sont différents des gestes professionnels de l'enseignant. C'est un sujet de recherche dans lequel je ne rentrerai pas, n'étant pas spécialiste, mais pour avoir pratiqué, parce que j'ai été nommé un jour à l'UFM, et d'un coup on m'a bombardé formateur, un métier que j'ai appris sur le tas et pour lequel j'ai des compétences, mais pas forcément toutes les compétences. C'est pas là-dessus que se fonde la nomination de directeur. J'essaye d'avoir l'approbation du collègue, mais bon. Troisième point, quel devenir pour la formation de formateurs ? Heureusement, tout le monde a compris, même le ministre de l'Éducation nationale, qui pourtant théoriquement n'a pas son mot à dire là-dessus, les IUFM ne sont pas morts. Même si l'inquiétude existe. Alors, j'allais dire institutionnellement, ils ne sont pas morts, puisqu'il n'y a pas de décret pour supprimer le décret qui a créé les IUFM. La loi Fillon de 2005 n'a pas été abrogée, que je sache. Alors c'est vrai qu'il n'y a que les journalistes qui le disent, et l'entourage du président de la République, et du Premier ministre, et bien sûr du ministère de l'Éducation nationale. On aimerait bien, les uns et les autres, être soutenus par notre ministère à nous, c'est-à-dire le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ça nous ferait plaisir. Hein ? On y travaille, on n'a pas que des succès, vous le savez. Et ce qui me satisfait, c'est que le travail entre la conférence des directeurs d'IUFM et la conférence des présidents d'université est au contraire un travail fructueux. Et que les relations de confiance qui existent entre Jean-Pierre Finance alors c'est peut-être des relations de confiance de Lorrain, hein, entre Jean-Pierre Finance et Patrick Barranger, pas entre les hommes, heureusement ça joue un rôle, mais entre les institutions, a fait que jusqu'à présent, on a eu le même discours et on a bien conscience que la formation des enseignants, c'est un défi capital. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire dans le contexte actuel pour la formation de formateurs ? Ben, pour les formateurs actuellement en poste, premier degré et second degré, au sein des IUFM, je crois qu'on a des difficultés, on aurait des difficultés si on lançait une enquête depuis la CDIUFM, à recenser l'ensemble des compétences de nos formateurs, j'allais dire sur un claquement de doigts, en disant « Allez, vous me faites remonter toutes les compétences », c'est-à-dire vous avez des certifiés ou des agrégés, est-ce que vous savez s'ils sont docteurs ? Peut-être qu'ils sont docteurs, peut-être qu'ils sont même qualifiés. Est-ce qu'ils ont des compétences dans tel et tel domaine ? Je vais dire des choses diverses. Par exemple, une expertise en formation d'adultes dans le cadre des relations internationales, avec des missions à l'international. Oui, peut-être. Et ce n'est pas forcément que des professeurs des universités qui ont ces compétences-là. Donc il y a un enjeu, à mon avis, qu'il faut bien prendre en compte, c'est recenser nos compétences, les compétences de nos formateurs, pour les reconnaître, alors c'est pas reconnaître avec un indice supplémentaire, hein, vous avez bien compris, mais pour une reconnaissance, parce que je crois qu'il y a, de la part de nos formateurs, dans les inquiétudes qui nous remontent parfois, cette timidité qui fait dire « oui, mais nous ne sommes que des certifiés ou que des agrégés face à ce monde de, des UFR, des autres composantes ». Et donc là, il y a un travail qui, à mon avis, doit être essentiel. Et puisqu'on parlait des validations d'acquis d'expérience, oui, la reconnaissance que pourrait faire l'université qui fait de la VAE, ça serait de reconnaître de l'expérience à des formateurs. Alors c'est toujours difficile parce qu'il y a toujours des gens qui me disent « oui, mais c'est plus facile de reconnaître de faire une VAE pour les coiffeurs que pour faire une VAE pour les profs ». En gros, parce que ça ne s'est jamais fait. Et est-ce qu'on peut faire de la VAE de type formateur ? Est-ce qu'on peut dire que tout d'un coup, parce que le système change, nos formateurs en qui on avait toute confiance, et le système avait toute confiance, tout d'un coup, comme ils n'ont pas tous les certificats et tous les masters, ils n'ont plus ces compétences. Tout d'un coup, ils les ont perdues. Donc il me semble que là, il y a un travail, et on peut utiliser le fait que nous sommes au sein des universités pour travailler sur cette question. Ça aura du sens, je pense, pour les gens en poste sur le terrain. Deuxième chose, pour les formateurs futurs. Si un jour on définit un référentiel de compétences de formateurs d'enseignants, en analysant à la fois le travail, les tâches, mais aussi le métier d'enseignant. Ça m'a l'air d'être tout un chantier. Bien entendu, un certain nombre de collègues y travaillent, mais c'est peut-être pas encore suffisamment constitué. Il serait utile de mettre en place une formation de niveau master ou une formation master pour qui faciliterait le recrutement de formateurs futurs. Soit des formateurs à temps plein, soit des formateurs associés. L'expérience que nous avons à Clermont est celle d'un DESS, de l'ingénierie du conseil pédagogique, qui a fonctionné pendant 4 ans, qui s'adressait aux enseignants du premier degré, et qui a montré que les enseignants du premier degré, qui étaient rentrés dans ce DESS, qui avaient pu rentrer dans ce DESS sans avoir les titres pour y rentrer, c'est-à-dire par validation d'acquis professionnels. Sous l'autorité du professeur Michel Fayol. À ces gens qui venaient du premier degré, qui étaient parfois des gens qui avaient simplement un DEUG, puisque c'était le diplôme minimum pour pouvoir rentrer à l'école normale, ont réussi à se hisser et à hisser leur niveau de connaissance et à structurer leurs compétences d'enseignant pour changer de positionnement professionnels et faire évoluer même leur carrière. Je pense que, certains sont restés des enseignants de terrain, mais beaucoup plus réflexifs qu'ils ne l'étaient auparavant. Et ça, c'est pas mal. 2, certains sont devenus conseillers pédagogiques, IMF ou conseillers pédagogiques, et ça n'avait rien à voir avec le CAFIPEMF, qui est autre chose. Bon, il faudra qu'on dise que c'est du recrutement et que c'est pas de la certification, mais ça, c'est un débat. 3, certains sont devenus IEN, beaucoup, et d'autres sont devenus chefs d'établissement. Absolument. Dans le second degré. Ouais. Et quelle capacité, finalement, a eu cette expérience du DESS-ICP qui s'adressait à des enseignants de toute la France et de l'Outre-mer pour réussir à leur faire accepter aussi des perspectives de carrière. Tout à l'heure, on a parlé du malaise dans le travail, du mal-être. Et quand on peut parler du bonheur, c'est bien aussi. Et je crois qu'un certain nombre d'enseignants se sont dit « Tiens, il y a des perspectives. » Et ces perspectives, elles se sont trouvées là. Ça n'a pas concerné beaucoup de monde, je vous l'accorde, mais sur 4 ans, multiplié par une vingtaine, ça faisait une bonne expérience. Enfin, pour éviter la disparition du capital de compétences accumulées, parce qu'il y a un capital de compétences, je ne sais pas si ça se transmet, et comment ça se transmet, et comment on fait pour transmettre ce capital de compétences, entre les formateurs confirmés, pour ne pas dire ceux qui sont en pré-retraite, et les nouveaux formateurs qui vont arriver, il est nécessaire de faire du tuilage. Et ce tuilage, parfois, on a du mal à le faire au moment où s'effectue le passage entre générations. Excusez-moi, on réinvente l'eau chaude et je crois que dans les entreprises, on fait exactement la même chose. Quelqu'un de chez Michelin me disait récemment, on a mis des gens en pré-retraite, ils sont partis Et dans nos groupes de réflexion, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit « Mais si machin était là, s'il n'était pas parti, il nous dirait que ce n'est pas la peine de s'engager sur cette voie parce qu'il y a 4 ans ou 5 ans, on s'était déjà engagé sur cette voie et on avait tiré les conclusions de cette expérience et ça ne marche pas du tout d'organiser le travail de telle et telle façon, de faire telle production de telle et telle façon, etc. » Et nous, on n'est pas foutus de le faire. On dit aux gens au revoir, enfin, de temps en temps ils reviennent, hein, Gérard, mais on dit aux gens au revoir, et voilà, et l'expérience part un peu, les compétences partent un peu. Et vous avez tous des exemples comme ça, où on a perdu ce qui faisait peut-être la spécificité de tel IUFM ou de tel groupe de formateurs. Il faut aussi créer de nouvelles compétences, et... Pour créer de nouvelles compétences, il faut trouver des dispositifs qui permettront de créer de nouvelles compétences, parce que la formation de formateurs, elle ne peut s'accomplir que dans le cadre du travail quotidien. Et c'est vrai que c'est pas si évident que ça, de dégager du temps pour pouvoir faire travailler les gens sur leur propre formation. Des expériences ont pu être menées, je vous soumets deux cas. Dans vos IUFM, ça a dû se produire, ou dans d'autres lieux, ça a pu se produire. Quand on fait travailler des gens en commun sur un projet, les compétences se créent progressivement. J'ai l'exemple de l'expertise qu'on réussit à acquérir des collègues de lettres à l'IUFM, sous la conduite d'un maître de conférence en littérature, dans l'expertise à l'étranger, au Maroc, à la demande d'un cahier des charges qui provenait de l'éducation nationale marocaine. Former des enseignants au Maroc et former des formateurs au Maroc qui formeront les enseignants pour améliorer l'enseignement de la littérature française dans le cadre du bac marocain en français. C'est compliqué, mais j'y suis arrivé. Des gens nous disaient, quand je me souviens que Gérard les avait réunis, ils disaient, mais nous, on n'a pas de compétences, on ne sait pas bien faire. On ne sait pas bien faire analyser des curricula, proposer des choses, etc. Et c'est à partir de ce projet et cette réponse au cahier des charges que les choses se sont mises en route et fonctionnent depuis maintenant 5 ans sur ce domaine. Je rejoins aussi la question de l'éducation à la santé. La création d'un réseau de formateurs en éducation à la santé, dont vous avez tous entendu parler, au moins les gens des IUFM, a montré que parfois on partait de rien. Il n'y avait personne. Personne dans les IUFM qui se préoccupait de questions d'éducation à la santé, sauf peut-être un prof de SVT ou un prof de PS. Oui. Qui disait oui, il y a des choses. Et puis les CPE qui disaient oui, il y a sûrement des choses à faire sur la drogue, hein, parce que la drogue envahit nos établissements. Donc, il y a eu, un plan d'action qui a permis de former ces compétences en faisant partager aux formateurs un projet commun et un travail collectif. Alors, il me semble qu'on a du pain sur la planche. Si on veut le faire, on peut travailler au moins sur ces trois domaines. Il y a trois enjeux, il me semble, essentiels. Le premier enjeu, c'est d'établir le lien entre recherche et formation de formateurs. Parce que la formation de formateurs doit faire appel à l'expertise de chercheurs, mais de chercheurs d'enseignants-chercheurs qui travaillent sur les thèmes de la formation des enseignants, les laboratoires qui travaillent sur ces thèmes-là, et notamment en associant le plus grand nombre de formateurs, on va dire de formateurs des IUFM, dans des réflexions et dans des recherches conduites par les laboratoires. Il y a une difficulté. Il y a une grosse difficulté, c'est que de l'avis de tout le monde, et comme on est entre nous, on peut le dire, la recherche, elle n'était pas suffisamment structurée à l'intérieur des IUFM au moment de notre entrée dans les universités. C'est ça, la difficulté. Notre difficulté, c'est de ne pas avoir peut-être réussi de façon très inégale à faire entrer la problématique de recherche et structurer la problématique de recherche spécifique à nos missions Bien entendu que les enseignants-chercheurs, ils travaillaient dans les laboratoires de leurs universités d'origine, ils étaient rattachés à des laboratoires. Alors, ça, c'est un enjeu, il faut continuer, et c'est un défi à relever. Le deuxième enjeu, il me semble, c'est que la formation de formateurs pourrait être utilisée comme un outil de GRH. Intelligente. On a compris depuis longtemps que les nouveaux formateurs faisaient l'objet d'une attention particulière. Je pense au pôle Sud-Est qui organisait chaque année un plan nouveaux formateurs, des actions nouveaux formateurs. Chaque UFM a essayé de prendre en compte ces nouveaux formateurs pour les insérer dans le système, parce que c'est pas parce qu'on est agrégé de mathématiques que tout d'un coup on saura enseigner et faire de la formation en mathématiques pour les PE1, les PE2 et la formation continue. Et donc là, il y avait un vrai défi, et il y avait peut-être du compagnonnage parce qu'on mettait bien les nouveaux formateurs en relation avec des IMF qui étaient des IMF compétents dans leur classe et qui avaient des compétences en formation auprès des jeunes enseignants ou des enseignants. Un master de formateur devrait pouvoir faciliter les prises de fonctions nouvelles, c'est-à-dire que si ça devenait aussi une condition ou une des conditions pour devenir un formateur d'enseignant, ben, pourquoi pas, ça faciliterait les choses. Mais comme dans le modèle du DESS-ICP dont je vous parlais tout à l'heure, il est possible que être formateur, ce ne soit qu'un passage, un moment dans une carrière d'enseignant. Ça arrive parce qu'il y a une diversité de missions et de fonctions à l'intérieur du système éducatif. On pourrait ainsi imaginer un enseignant désirant devenir formateur, se préparant au métier de formateur par l'obtention d'un master de formateur, entrer en fonction dans un IUFM, développant de nouvelles compétences au cours de son passage à l'UFM, puis fort de ses compétences, poursuivre une autre carrière, retour dans le second degré, poursuite d'une thèse et passage comme enseignant-chercheur, devenir IAIPR, devenir chef d'établissement. Et ainsi, la formation de formateur devrait pouvoir être pensée comme normale dans l'évolution professionnelle d'un enseignant. Alors, en poursuivant une réflexion collective sur ces questions, en s'appuyant sur les différents partenaires, et l'INRP en est un, les laboratoires de recherche en France, les associations de spécialistes sur ces questions, hein, je pense à l'Association des enseignants-chercheurs en sciences de l'éducation, eh bien, les IUFM devraient être des forces de proposition au sein des universités, dans le domaine de la formation d'adultes, parce qu'on fait bien de la formation d'adultes à l'université. Mais on fait de la formation d'adultes dans d'autres domaines. Je dis d'adultes, je veux dire d'adultes confirmés, pour simplifier les choses. Je pense que c'est le sens de notre démarche aujourd'hui. Je vais dire, c'est peut-être un peu difficile parce que le bateau tangue et que le cap n'est pas assuré. Mais si le bateau tangue, il ne faut pas tanguer en même temps que lui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas créer des problèmes, vous savez, quand une armée marche au pas sur un pont suspendu, en général, ça provoque des catastrophes. Eh bien, non, il faut innover comme on a innové depuis 91, avec des bonheurs, avec des difficultés, avec des erreurs, qui n'a pas fait d'erreur dans ce domaine. Mais je crois que la formation de formateurs, elle doit avoir de l'avenir dans les IUFM, au sein des universités, quitte à dire et à être des forces de proposition au sein de l'université, comme on le fait parfois à la demande des CIES ou à la demande des écoles doctorales pour des interventions particulières. Voilà ce que je souhaitais vous dire.